Vous êtes sur RTL.
RTL Matin, Jérôme Florin.
Et le journal, c'est avec vous Olivier Bois, bonjour.
Bonjour Jérôme, bonjour à tous.
À la une, le procès de Jonathan Daval qui s'ouvre dans une heure maintenant devant la cour d'assises de Vesoul.
Jugé pour le meurtre de sa femme Alexia en 2017, l'heure de la vérité pour Jonathan Daval qui a tant menti dans cette affaire. Pendant trois mois, il avait joué, on s'en souvient, au veuf inconsolable avant d'avouer les faits. Un autre procès à la une ce matin, celui du terroriste présumé du Thalys en 2015, arrêté quasiment miraculeusement par des passagers alors qu'il avait sa Kalachnikov à l'épaule. Vous entendrez dans un instant l'un des héros de ce jour-là. Et puis comme une fête clandestine avec 300 personnes a-t-elle pu se tenir en banlieue parisienne, le propriétaire de la maison transformée en boîte de nuit est toujours en garde à vue.
RTL Matin.
Le procès s'ouvre donc dans une heure devant la cour d'assises de Vesoul. Jonathan Daval, jugé pour avoir frappé et étranglé sa femme Alexia en 2017. Il avait ensuite fait croire à son innocence pendant des mois. On se souvient des larmes de cet homme alors qu'il multipliait les conférences de presse aux côtés de la famille d'Alexia. Bonjour Samuel Goldschmidt.
Bonjour.
On vous retrouve en direct devant le tribunal. Vous allez suivre ce procès pour RTL qui va se tenir dans des conditions exceptionnelles.
Oui, il y a déjà un grand remue-ménage ici autour du palais de justice. De très nombreux policiers qui ont pris place, des cars régis qui sont stationnés, le tout dans un endroit relativement exigu, le centre historique de Vesoul, et dans un palais de justice assez petit, même s'il vient d'être rénové après un chantier de 4 ans et demi. Les journalistes sont limités à 40. Il y aura les jurés, les magistrats, les témoins, les avocats, les familles. Et il faut que tout ce monde se croise le moins possible jusqu'à vendredi. Les avocats de Jonathan Daval avaient demandé à ce que ce procès soit reporté, mais le parquet a rejeté cette demande. Les entrées, la circulation dans les couloirs seront strictement surveillées et les débats seront retransmis dans deux salles en plus de la salle d'audience pour que tous les présents puissent être suffisamment espacés.
Samuel, on se souvient, toute la France avait suivi l'affaire en 2017. Pendant trois mois, on le disait, Jonathan Daval avait tenté de faire croire à une mauvaise rencontre de sa femme pendant un footing alors que c'est lui qui avait maquillé son meurtre. Il a menti à tout le monde, il a menti à la famille d'Alexia qui le considérait comme son propre fils. Il sera face à eux tout à l'heure. Dimitri Ramelot a recueilli le témoignage de la mère d'Alexia, Isabelle Fouillot.
Bien sûr que je vais le regarder. Je n'en peux plus l'attendre parce que en trois ans, plus les jours passent et plus Alexia me manque. Moi, j'attends juste qu'on mette le mot coupable sur sa tête. Je l'ai quand même connu pendant plus de 10 ans, hein, ce meurtrier. On lui a tout donné. On lui a donné notre fille. On lui a donné notre amour. Il était comme notre fils. Est-ce qu'il va reconnaître tout ça ou pas? Moi, ma grande question, c'est le pourquoi en arriver à tant d'horreurs? Elle a quand même reçu 15 coups de poing. Un étranglement de 4 minutes. Il voulait vraiment en finir avec Alexia.
Voilà les mots glaçants de la mère d'Alexia, Isabelle Fouillot. Samuel Goldschmidt, on vous retrouve. Vous allez donc assister tout au long de la semaine à ce face-à-face. La mère d'Alexia qu'on vient d'entendre a eu d'ailleurs un rôle déterminant dans l'enquête. C'est elle qui, dans le bureau du juge, a finalement fait craquer Jonathan Daval à l'époque.
Oui, ça s'est passé le 7 décembre 2018 à la fin d'une longue journée de confrontation dans le bureau d'instruction, d'abord devant sa belle-sœur, puis devant son beau-frère. Jonathan Daval maintient ses accusations de complot familial, moment éprouvant d'ailleurs pour ce fameux beau-frère Grégory Gay, qui a vécu un long cauchemar de 5 mois pendant toute cette période où Jonathan l'a accusé faussement d'avoir tué Alexia. Puis, c'est la confrontation avec la mère d'Alexia. Jonathan se réfugie à nouveau dans le déni. Sa belle-mère, au bout d'une heure et quart d'impasse, le supplie une dernière fois et elle lui montre une photo d'Alexia et du chat du couple. Et là, Jonathan Daval craque, avoue le meurtre, se met à genoux devant sa belle-mère, apparemment pour implorer son pardon. Et c'est elle qui va le relever et le prendre dans ses bras, soulagée d'avoir enfin pu provoquer les aveux de son gendre.
Merci beaucoup Samuel Goldschmidt. Le procès s'ouvre donc tout à l'heure à 9h. Verdict attendu vendredi prochain.
Et on en vient à cet autre procès, Olivier. Procès qui s'ouvre aujourd'hui devant la cour d'assises de Paris, celui du terroriste présumé du Thalys.
Oui, à l'été 2015, l'attentat avait été miraculeusement évité dans un train à Amsterdam-Paris. Des soldats américains étaient intervenus pour neutraliser Ayoub El-Kazani qui venait de sortir des toilettes, Kalachnikov en bandoulière. Il avait 270 munitions et c'est un carnage qui a très certainement été évité ce jour-là. L'un des premiers à être intervenu avec les militaires américains s'appelle Christopher Norman. Il sera tout à l'heure sur le banc des parties civiles. Sinamir a pu recueillir son témoignage. C'est un document RTL.
Je sens toujours là où je me suis écrasé les côtes en train d'essayer de le maîtriser, tous ces genres de choses-là. Je sens physique de ce côté-là. Je me souviens le toucher de sa peau. Je me souviens toujours de ses yeux. Il avait les yeux complètement vides, noirs. Je me suis demandé ce qu'ils ont fait à ce type. Quelques années qui avançaient avec un Kalachnikov. Il était barbu, torse nu, et il y avait un grand clic et rien qui se passait de tout. Si, à mon avis, cette cartouche est partie, une bonne partie de nous seront morts aujourd'hui. C'est très clair qu'avec les 9 chargeurs, il était bien préparé. Mais en tous les cas, le fait que le Kalachnikov n'a pas marché a fait que Spencer Stone avait le temps de lui attendre et d'essayer de commencer à le maîtriser.
Comment vous avez vécu tout ce qui s'est passé après, c'est-à-dire les attentats qu'on a connus en novembre, quand on sait qu'il y avait des liens?
On a gardé en vie. Je trouve que c'est dommage qu'on n'a pas pu exploiter ce qu'on avait entre les mains. C'est tout. Juste une pensée pour les gens qui, tous les victimes, Bataclan, Zaventem. J'espère qu'on va trouver quelque chose, trouver moyen d'arrêter tout ceci.
Christopher Norman, l'un des héros ce jour-là du Thalys au micro de Sinamir, et qui évoque effectivement ce procès qui sera d'autant plus intéressant qu'il s'est produit quelques mois seulement avant les attaques de Paris. Et on sait aujourd'hui qu'Ayoub El-Kazani avait été envoyé depuis la Syrie par Abdelhamid Abaoud, l'organisateur des attentats du 13 novembre.
RTL, il est 8h06, à la une également ce matin, l'épidémie de coronavirus. Et cette question, Olivier, comment mieux anticiper et maîtriser les clusters?
Oui, c'est un enjeu majeur, on le sait, une fois en tout cas qu'on aura passé cette seconde vague. La stratégie repose pour le moment essentiellement sur le traçage des cas contacts, mais les autorités s'interrogent sur la possibilité de détecter le Covid plus vite dans les eaux usées. Les pompiers de Marseille ont mis en place une technique très prometteuse qu'ils testent depuis le début de l'épidémie dans les EHPAD, Étienne Baudu.
Oui, et c'est en traquant le coronavirus dans les égouts que les marins-pompiers ont découvert que les selles, les matières fécales, étaient, on va dire, des réceptacles très importants. Le premier maître, Eric, de l'unité spécialisée dans cette chasse au virus.
Il y a énormément de présence de virus dans les selles, 1000 fois plus que dans la partie nasopharyngée, en fait, au niveau du nez. Même dilué dans les eaux usées, on va le retrouver, on va retrouver ses traces. Il suffit qu'on en trouve une, deux, et ce sera réglé.
Et c'est là le travail du laboratoire partenaire marseillais, C4 Diagnostics, qui réussit à fournir dans la journée une analyse extrêmement fine de ces échantillons d'eau usée, 100 000 fois plus fine qu'un prélèvement nasal. Son président Younes Lazrak.
On est arrivé à un niveau de sensibilité où on a pu détecter un unique pensionnaire contaminé dans un EHPAD, donc avec beaucoup de personnes, beaucoup d'eau, etc. Et même avec cet unique cas qui n'était pas connu, qui était asymptomatique, on a pu détecter la trace du virus dans les eaux usées et donc fournir l'alerte à l'EHPAD plusieurs jours à l'avance pour qu'ils évitent des éventuelles contaminations avec cette personne et qu'ils évitent le cluster.
Car l'autre découverte, c'est que les selles sont contaminées bien avant l'apparition des symptômes, 6 jours avant. Du coup, chaque semaine, les marins-pompiers inspectent les égouts des 96 établissements dont ils ont la charge et chaque jour, ils détectent au moins un établissement positif. Et là, soit la direction décide un dépistage massif, soit les marins-pompiers effectuent des prélèvements de surface très ciblés.
On a testé chaque chambre et finalement, on a pu écarter une seule personne dans laquelle on a trouvé du prélèvement surfacique positif. Après, c'est plus qu'une formalité pour une seule personne de faire le prélèvement humain qui s'est avéré évidemment positif. On n'a pas été obligé de tester la totalité des personnes.
Et c'est ainsi qu'à Marseille, grâce à cette détection précoce, aucun cluster n'est à déplorer dans aucun des EHPAD de la ville.
Merci Étienne Baudu, correspondant RTL à Marseille. En attendant, l'urgence est de passer cette seconde vague. Nous reprenons le contrôle. Les mots ce matin sont d'Olivier Véran. Le nombre de contaminations est en baisse. On observe également une stagnation du nombre d'hospitalisations. Mais il est trop tôt pour crier victoire, s'empresse de préciser évidemment le ministre de la Santé.
Et on reviendra d'ailleurs sur tous ces chiffres. Comment bien les lire? On verra ça avec la Brigade et Sophie Orange dans 5 minutes sur RTL. Trop tôt donc pour crier victoire et trop tôt, Olivier, pour assouplir les règles.
Oui, et ce sont les catholiques qui protestent. Les messes, vous le savez, sont interdites avec ce reconfinement. Il y a eu plusieurs manifestations ce week-end de catholiques en colère, notamment à Lyon hier, où Bertrand Frachon a rencontré Henri Place Bellecour.
Ce que je ne comprends pas, c'est que je suis allé faire mes courses hier dans un magasin de bricolage et il y avait plus de place sur le parking, des gens partout agglutinés devant les caisses, etc. Et qu'aujourd'hui, on ne peut pas se retrouver dans une église. Il y a une vraie incohérence pour moi et je ne comprends pas.
Est-ce que c'est bien raisonnable en période de pandémie comme ça?
Enfin, est-ce que c'est bien raisonnable? On est quand même aujourd'hui, ça fait 8 mois qu'on vit cette pandémie, on est capable effectivement de se retrouver dans une église et d'avoir des gestes barrières, de faire attention, de porter notre masque, de s'asseoir à distance les uns des autres. Enfin, je vois pas ce qui peut poser problème. N'ayez pas peur. Voilà, moi j'avais 18 ans pour le n'ayez pas peur. Bah, c'est resté gravé en moi, donc je n'ai pas peur.
Henri, catholique en colère de Lyon, les représentants des cultes, et donc notamment catholiques, seront reçus cet après-midi au ministère de l'Intérieur. Jean Castex, le Premier ministre, sera lui aussi de la rencontre.
Il est 8h10 sur RTL. Dans un court instant, comment une fête ce week-end a-t-elle pu être organisée avec 300 personnes en banlieue parisienne? Le propriétaire de la maison et l'organisateur de la soirée sont toujours en garde à vue. A tout de suite.
RTL Matin, Jérôme Florin. RTL Matin.
RTL 8h11, la suite du journal d'Olivier Bois. On en vient donc, Olivier, à cette fête totalement illégale, hein, organisée ce week-end en banlieue parisienne.
Oui, à Joinville-le-Pont, 300 personnes, plus de 300 personnes même, rassemblées dans cette maison transformée en boîte de nuit. Ce sont les riverains qui ont appelé la police tellement il y avait de bruit. Il y a eu des affrontements également avec les forces de l'ordre. Trois personnes sont en garde à vue depuis hier soir, Alice Moreno.
Oui, le propriétaire des lieux, l'organisateur de la soirée et un troisième homme chargé de la sécurité lors de la fête sont entendus depuis hier par les enquêteurs. Tous les trois ont potentiellement joué un rôle majeur dans cette affaire, cette soirée qui n'avait rien d'improvisé. L'entrée était d'ailleurs payante, d'après une source policière, plusieurs dizaines d'euros par tête. Quant aux centaines de fêtards présents cette nuit-là, ils sont parvenus à prendre la fuite à l'arrivée des policiers. L'intervention a été particulièrement délicate pour l'équipage de police secours, 12 fonctionnaires face à 300 personnes et des individus très agressifs qui leur ont jeté toutes sortes de projectiles. La préfecture de police de Paris appelle tous les participants à passer un test Covid, car au moins une personne était positive cette nuit-là. Une enquête est ouverte pour mise en danger de la vie d'autrui et violence volontaire sur personne dépositaire de l'autorité publique.
Merci Alice Moreno du service police-justice d'RTL. Et les 300 participants, effectivement, on le disait, sont invités à se faire tester au plus vite. L'un des fêtards a été diagnostiqué positif au Covid. Deux mots de sport pour finir. Lewis Hamilton est champion du monde de Formule 1 pour la 7e fois. Il a gagné hier le Grand Prix de Turquie. Il rejoint ainsi Michael Schumacher. Et puis en top 14 rugby, le Stade français a battu La Rochelle 35-13. La Rochelle reste pour autant leader.
Merci beaucoup, Olivier.